Mémoire d'une aveugle, 12e partie. Revenons à Madame de Tencin, qui n'en a jamais eu, ni jeune, ni vieille. Il fut donc arrêté qu'elle partirait pour Paris, comme représentante du chapitre, qu'elle correspondrait directement avec Madame l'abbesse et le conseil, qu'elle aurait plein pouvoir, qu'elle recevrait une rétribution annuelle assez considérable pour soutenir la dignité de sa position, qu'elle reviendrait chaque année rendre ses comptes et prendre de nouvelles instructions dans la saison qui lui semblerait la plus opportune. À cela près, pleine confiance, pleine liberté, et compliments les plus flatteurs sur ce que l'on attendait d'elle. Parvenue au comble de ses vœux, la comtesse Alexandrine attendit encore pour laisser voir sa joie. Elle se contint, elle hésita, elle fit semblant de s'imposer un sacrifice affreux en quittant sa retraite chérie. Elle joua enfin une comédie si parfaite, elle pleura tant, qu'à son départ il n'était pas un être à Neuville qui ne la crût la plus malheureuse personne du monde et qui n'admirât son dévouement au bien de la maison. Le train qu'on lui donna fut modeste, elle n'en voulut pas davantage, une seule femme et un laquais. Elle se réservait de mieux faire plus tard. Elle écrivit de la première couchée à son frère de la rejoindre à Paris. Elle connaissait son mérite. Elle savait ce qu'on devait attendre de cet abbé, aussi intrigant qu'elle, pour le moins, mais plus accessible par le cœur et plus capable de se laisser influencer. Elle lui servit de paravent à sottise, sans quoi il en eût fait beaucoup plus qu'il n'en a fait. L'abbé de Tencin était joli garçon. Il avait, comme Alexandrine, une séduction et une grâce sans pareille. Madame de Ferriol était loin de les valoir, et leur autre sœur avait plus de ressemblance avec le cardinal et la chanoinesse. Il y a d'elle un joli mot que je dirai plus tard, je ne m'en souviens pas aujourd'hui. Je le demanderai à d'Argental la première fois que je le verrai. L'abbé avait un an de plus que sa sœur. En recevant sa lettre, il se hâta d'accourir, d'autant plus qu'elle avait pourvu au voyage, avec l'argent du chapitre, bien entendu. Ce fut pour eux une grande joie que de se revoir, car ils s'aimaient d'une amitié sans pareille. Ils prirent d'abord leurs arrangements tout à leur aise. Ils eurent ensemble une de ces conversations qui décident l'avenir. Ils se jurèrent aide, assistance mutuelle, confiance absolue et indulgence plénière. Ils ne venaient pas à Paris pour s'y faire canoniser. Ils savaient d'avance que pour attraper la fortune, lorsqu'on part de bas étage surtout, il ne faut pas être difficile sur les moyens. Leur vrai nom était Guérin. Celui de Tencin venait d'une petite terre, et l'illustration de la famille n'était ni grande ni ancienne. Le grand-père, assurait-on, était serrurier, et les plus huppés arrivaient jusqu'au Parlement de Grenoble, pas davantage. C'était donc une grande entreprise que d'atteindre bien haut avec de pareils antécédents et si peu d'aide. Ils ne reculèrent pas cependant, et ils firent bien. Chapitre 53. Madame de Tencin fit tout de suite d'excellentes connaissances. D'abord par les lettres de recommandation de son abbesse, et puis par sa sœur, Madame de Ferriol, fort liée avec le maréchal d'Uxelles, et qui voyait la bonne compagnie. Elle plut beaucoup à Paris, comme à Montfleury et à Neuville. Elle ne s'y cacha pas et voulut au contraire mettre toute voile hors, afin de se faire des partisans. Vous jugez si elle en eut. Jeune, belle, adroite, d'un esprit adorable et disposée à bien accueillir les chalands, tout autant qu'il lui plairait néanmoins, et qu'ils pourraient lui être bons à quelque chose. Sa grande ambition était d'arriver à la cour. Mais pour cela, il n'y avait pas d'apparence. L'épreuve ne se pouvait faire. Heureusement, le chapitre de Neuville n'était pas celui de Maubeuge ou celui de Remiremont, sans quoi toutes les intrigues du monde ne l'y auraient pas introduite. Les chanoinesses l'eussent lapidée plutôt que de la recevoir. Faute de la cour, ou du moins faute de Versailles, elle vit ce qu'il y avait de mieux à Paris. Sauf le roi et les princes, elle fut reçue des gens les plus difficiles comme une personne très bonne à fréquenter, et elle en profita bien vite. Elle eut successivement des amants distingués et riches. Elle ne leur demanda rien pour elle, mais tout pour son frère. Elle lui fit successivement avoir plusieurs bénéfices, plusieurs gratifications lucratives. L'abbé aimait beaucoup l'argent. Elle n'y tenait guère. Sobre, sans goût prononcé pour autre chose que les plaisirs de l'amour, elle n'avait pas besoin de biens. Elle ne fit rien pour en avoir. Tout alla ainsi jusqu'à la mort du feu roi. Ils accrochaient à droite et à gauche ce qu'ils pouvaient, sans avoir rien de positif. À cette époque, la comtesse Alexandrine jeta ses plombs du côté de Monsieur le Régent. Et, à force de démarches, de requêtes et de demandes, elle vint à bout de le voir. Il la trouva belle, il la trouva agréable, il le lui dit. En demanda la récompense, l'obtint, et en resta là dès le premier jour. Non qu'elle ne tînt toutes les promesses de sa beauté, mais parce qu'elle eut la maladresse de lui parler des affaires de l'État, qu'elle comptait déjà gouverner avec lui, en des moments où l'on ne parle que des affaires d'amour. « Je n'aime pas les femmes qui m'interrogent ainsi dans mon alcôve, » dit Monsieur le Régent. « Lorsque la comtesse de Tencin reviendra, on lui dira toujours que je suis au conseil, fût-il même 2 heures de la nuit. » Je vous prie de croire que Monsieur le duc d'Orléans se servit d'autres termes que cela. Il ne prenait pas de mitaine en pareil cas, et il en disait de belles. Cette intimité n'eut donc pas de suite, à la grande humiliation de la chanoinesse, qui ne s'en consolait pas. Elle avait la rage du gouvernement, et tourna ses visées du côté de l'habit Dubois, ce vilain chafouin, incapable d'être mieux qu'un prétexte d'amour. Il fut moins difficile que son maître, et se laissa prendre au traquenard. Il courut à cette époque des conversations entre eux au sujet de la comtesse, dont on fit des Noëls incroyables. Je ne m'en souviens plus, je les ai cherchés dans mes papiers et ne les trouve point. Ce commerce resta caché pendant assez longtemps, puis il éclata. Madame de Tencin se fit hardiment le canal des grâces. Elle dirigea, elle se plaça droit à la tête de la maison du ministre. Sans y demeurer, elle y passait sa vie. Elle recevait, elle y conduisait les importuns, accueillait les favoris. Dubois la laissait faire, et lorsqu'on s'en étonnait, il avait toujours la même réponse. « Pendant qu'elle fait la maîtresse chez moi, elle ne fait pas la maîtresse avec moi. » Je m'en débarrasse au profit des autres. » Il va sans dire que le bien-aimé frère eut les premières éclaboussures de ce marché. Il obtint une bonne abbaye. Il fut choisi pour convertir Lau et reçut de lui une récompense sonnante, plus désirable, selon lui, que les meilleures promesses. Le système ne l'attrapa point sans verre. Il avait converti en or, dès le lendemain, les actions données par son néophyte, et se garda d'en acheter d'autres. Dubois le nomma envoyé à Rome près du pape, dont il voulait obtenir le chapeau, et Monsieur de Tencin n'eut point craché, pour son compte, sur la barrette. Le jésuite Lafito et lui partirent ensemble pour cette mission. La veille même de ce départ, ils furent arrêtés par un ordre du Parlement. Monsieur de Tencin fut accusé de simonie au sujet d'une abbaye qu'il avait escamotée pour un de ses neveux, mais Dubois passa là-dessus, et malgré sa condamnation, malgré la présence de Monsieur le prince de Conti, qui le hua et le fit huer, Monsieur de Tencin n'en fut pas moins envoyé, et Dubois pas moins cardinal et premier ministre, plus archevêque de Cambrai. Ce qui me faisait dire à Madame de Tencin, lorsqu'elle me tourmentait de ses grands embarras, « Allons donc, Madame la Comtesse, vous avez l'air tout étonnée de vous voir la maîtresse d'un si grand personnage et d'un archevêque. entre gens de votre robe et de votre sorte, il n'y a que la main. » C'est qu'en vérité, ils étaient tous les deux d'église, et tous les deux parvenus. Dubois mourut. Madame de Tencin le pleura par manière, mais la curiosité, ce fut d'entendre son oraison funèbre de sa façon. Ses neveux en faisaient des contes à mourir de rire. « Il est mort, » disait-elle en pleurant d'un œil et en clignant de l'autre. « Il est mort en faisant la nique au diable qui l'attendait à la porte et qui le récompensera suivant ses mérites. Jamais cet homme n'a rien aimé que l'argent. Il ne s'aimait pas lui-même, de peur de céder à un de ses caprices et de faire tort à sa bourse. Il était menteur, voleur, méchant, cruel, sans entrailles. Mais il avait tant d'esprit qu'il savait effacer tout cela, lorsqu'il en avait besoin pour l'intérêt de ses écus. « Et vous, madame, vous aimait-il ?»« Il ne m'aimait point, et je le lui rendais bien, je vous en réponds. Nous n'avons point cherché à nous tromper l'un l'autre. » « Alors, pourquoi le pleurez-vous ? » « C'est que les sots croiront que je le regrette. » « Pourquoi ne vous sépariez-vous pas avec une si touchante conviction mutuelle ?»« Parce que nous n'aurions pu trouver à nous appareiller mieux. À ma place, une autre bien éclairée l'eût abandonnée. À la sienne, un premier ministre aurait cherché une compagne moins clairvoyante. » Au moins se ménageait-elle un peu plus que lui. Ce fut un grand changement pour la comtesse Alexandrine. Elle rentra dans la vie privée, ainsi que le disait Voltaire, qui ne pouvait la souffrir. Elle l'agaçait comme une scie, ajoutait-il. Son train d'amant marchait toujours, et la fortune de l'abbé suivait sa pente. Il se voyait moins, puisqu'il voyageait et que la comtesse ne bougeait de Paris. Elle n'aurait pu vivre ailleurs. Elle envoya promener le chapitre, et se procura un bref du pape qui lui permettait de mener la vie séculière. Elle usa largement de ce bref-là et l'étendit jusqu'à ses dernières limites. J'arrive à la grande aventure de sa vie, à celle qui aurait fait mourir de chagrin et de honte toute autre femme, à l'histoire de ce malheureux Lafresnais dont nous avons tous été témoins et à laquelle je me trouvais mêlée, ce qui m'inquiéta fort. Il faut reprendre les choses d'un peu plus loin pour les éclaircir. L'abbé de Tencin venait de partir pour Rome, comme conclaviste du cardinal de Bussy, lorsque la comtesse retrouva, chez je ne sais plus quel bel esprit, car elle en était entourée, ce vieil égoïste de Fontenelle, dont elle avait fait son amant lorsqu'elle commença d'écrire, afin de trouver en lui un prôneur. Elle avait été longtemps sans le voir. Elle fut charmée de son esprit, de sa conversation, et l'engagea fort à venir la voir, ce qu'il fit. Peu à peu, ce commerce se modifia et devint une habitude de discours, un échange de bons mots et de plaisanteries. Mais ils étaient nécessaires l'un à l'autre. En l'absence de son frère, elle ne trouvait personne qui lui convînt davantage. Un jour, Fontenelle badinait avec elle et lui annonça qu'il connaissait un homme de beaucoup de cœur, conseiller au grand conseil, qui s'était passionné pour elle et qui n'avait pas d'autre désir que de lui faire la cour. « Eh bien, amenez-le donc, » répliqua-t-elle. « Un homme de cœur est une merveille en ce temps-ci. Je ne serais pas fâchée de le voir pour le bien observer. » « Il ne manque pas de bien. Il est d'une bonne famille de robes. Vous pouvez le recevoir et le présenter au cardinal. » Dubois vivait encore alors. Monsieur de Lafresnay, l'homme de cœur en question, fut présenté un beau jour et fort bien reçu. Il avait peu d'esprit, du moins de celui qui brille. Il était assez bien fait, ses manières étaient celles d'un gentilhomme. Tant il y a qu'il devait avoir quelque mérite, car madame de Tencin, qui s'y connaissait, lui accorda l'honneur de ses bonnes grâces et les lui conserva pendant 4 ans. Je ne voudrais pas jurer qu'il en profita seul, par exemple, et nous avons beaucoup de raisons de penser le contraire. Ce commerce marcha avec beaucoup d'orage. La Freinet était d'une jalousie cramoisie. Il aimait tellement sa maîtresse qu'il ne parlait d'autre chose dans ses furies que de la tuer, de tuer ses rivaux et de se tuer lui-même par-dessus le marché. Il lui faisait des scènes abominables dès qu'il trouvait un homme chez elle, surtout depuis la mort du cardinal Dubois, qui l'avait rendu maître absolu au logis, à ce qu'il croyait. Quant à moi, je l'ai toujours soupçonné d'être un peu fou. Il venait chez moi souvent, me tenait des heures entières à me conter ses douleurs, et m'ennuyait fort, je l'avoue. Je n'ai jamais pu comprendre comment la comtesse Alexandrine l'avait supporté si longtemps. Un matin, il était dans ma chambre, je ne savais m'en débarrasser, et je cherchais un moyen de sortir de peine lorsqu'on m'annonça d'Argental, qui s'était arrêté dans mon boudoir. Je saisis l'occasion et je me levai pour le rejoindre. Je le trouvai échauffé, la tête partie et se jetant après mes mains dans un état incroyable. La porte était restée ouverte. « Ah, madame, avez-vous vu ma tante ?» me demanda-t-il. « Mais non !» répondis-je, aussi étonné de la question que de la façon de la faire. « Je la cherche partout, ma bonne, ma chère tante. Vous me voyez effarée d'avoir couru après elle, et il faut que je la rencontre cependant. » « Qu'y a-t-il de si pressé? Qu'avez-vous à lui dire? Est-il arrivé quelque événement chez madame votre mère? Vous avez l'air bien joyeux. » « Si je suis joyeux, je le crois bien. Ma tante a été si bonne, si charmante, si aimable pour moi ce matin. » « Que vous a-t-elle fait, mon pauvre d'Argental ?»« Je vous le dirai, je ne le dirai qu'à vous, mais il faut que je le dise, ou j'en étoufferai. » Je fus si intéressée et si curieuse que j'oubliai la Freinet dans ma chambre. Je m'assis près de d'Argental et je l'interrogeai précipitamment. Le jeune homme, ravi, me raconta qu'il aimait sa tante. Non pas d'amour, mais d'une amitié vive, et qu'il n'avait jamais osé le lui dire, parce qu'elle lui en imposait fort. Enfin, le matin, en allant déjeuner chez elle, il avait eu le courage de lui ouvrir son cœur, de lui demander ses conseils, de la prier d'être pour lui un guide et une amie, le caractère de sa mère ne lui promettant pas de trouver en elle ce qu'il cherchait. Madame de Tonsin lui avait répondu, avec une grâce charmante, qu'elle était ravie de sa demande, qu'elle l'aimait fort, qu'elle se chargeait de le conseiller en tout, et qu'elle comptait bien le voir très souvent, comme elle en avait le droit, en tante et en amie. D'Argental était si ravi, si heureux, qu'il la remercia très mal, qu'il ne sut pas dire ce qu'il pensait. Et plus tard, revenu à lui, il la cherchait chez tous ses amis pour lui témoigner sa reconnaissance. C'était fort innocent, et je n'y vis pas le plus petit mot à reprendre. Au beau milieu des épanouissements de mon jeune ami, j'entendis fermer la porte de ma chambre, de façon à nous la faire tomber sur le dos. Je me rappelais alors que la Freinet était là, et je me rappelais aussi sa terrible jalousie. « Ah ! M'écriai-je, nous allons être cause de quelque malheur, la Freinet a tout entendu. » « Mon Dieu, madame, je cours chez ma tante. Gardez-vous-en bien, le remède serait pire que le mal. La comtesse saura bien s'en tirer toute seule. Elle a trop d'esprit pour avoir peur de ce cuistre-là. C'est égal, je suis inquiet. Il n'y a pas de quoi, vous dis-je. Elle en sera quitte pour quelques discours, quelques menaces, quelques pistolets en l'air, et après tout s'apaisera. » Le jeune homme me quitta sur le champ. Néanmoins, je ne voudrais pas assurer qu'il ne fût un peu amoureux de sa tante, sans s'en douter, bien certainement, car d'Argental, tout en fréquentant les demoiselles et les comédiennes, avait conservé une rare pureté des sentiments. J'appris plus tard par madame de Tonsin ce qu'il advint de cette conversation, et comment elle amena de si terribles suites. Chapitre 54. Madame de Tonsin venait de rentrer chez elle lorsque monsieur de la Freinet parut. Sa pâleur, le tremblement de sa voix, lui annoncèrent un orage. Elle y était faite et ne s'en effraya pas beaucoup. Elle lui demanda, d'un ton fort calme, à qui il en avait. Il se laissa tomber sur le premier fauteuil et resta là, comme sans connaissance. La comtesse s'approcha de lui et répéta sa question. À ces mots, la Freinet se leva comme un furieux. « Ce que j'ai, madame, ce que j'ai, vous osez me le demander ?»« Mais oui, je le demande, et je le demanderai toujours, ou vous êtes fou, ou vous êtes malade. »« Je ne suis ni fou ni malade, madame, je suis éclairée enfin. Je vous connais, j'ai entendu l'aveu de la bouche même de votre complice. » Quel complice ? Oh, la belle effrontée, quel complice ! Vous en avez donc plusieurs que vous me demandez son nom ? Madame de Tencin éclata de rire. Ceci est bouffon, tout à fait bouffon, monsieur, et je ne veux pas en entendre davantage. Je ne me rétracte pas. Décidément, vous êtes fou. Le pauvre homme l'était bien, et il l'a prouvé. Mais cet accès n'était pas encore aux dernières périodes. Il partit en éclats terribles, et au moment où elle s'y attendait le moins, il s'interrompit pour réclamer d'elle ses pistolets de poche qu'elle lui avait empruntés. « Ah ! Quant à cela, je vais vous les remettre tout de suite !» Elle alla vers son bureau, où elle les avait renfermés, et elle les lui présenta. « Vous me les donnez ! Vous ne craignez pas que j'en fasse usage, madame ! » reprit-il dans une furie nouvelle. « Mais contre qui ? » Contre votre neveu, contre ce petit d'Argental qui a l'audace de vous aimer et que vous avez l'infamie d'accueillir. » La comtesse rit plus fort. « mon neveu, c'est de mon neveu qu'il s'agit. C'est mon neveu que vous voulez tuer. C'est admirable, en vérité, et je ne pouvais pas moins attendre de votre bonté, de votre raison. » Il leva le pistolet en l'air. Madame de Tencin prit l'autre, placé à côté de lui, et l'éleva également, mais sans intention hostile, car les armes n'étaient pas chargées. « Ah, madame, vous me voulez assassiner, comme vous avez tenté d'assassiner Monsieur de Nocé, je le vois bien. Vous avez empoisonné plusieurs de vos amants qui déplaisaient au cardinal. J'ai failli avoir le même sort, j'ai échappé par miracle. On me l'avait dit, je ne le croyais pas, mais à présent je n'en doute plus. » La comtesse devint attentive à cette accusation. Néanmoins, ce n'était pas la première fois qu'elle arrivait jusqu'à elle, et elle en avait été un peu inquiétée. Un hasard funeste avait fait mourir plusieurs personnes le lendemain ou le surlendemain d'un dîner chez elle. Ces personnes étaient suspectes à Dubois, on ne manqua pas de l'accuser. Dans ce siècle-ci, les empoisonnements sont à la mode. Pour la moindre chose, on vous en soupçonne et l'on vous en convainc. » La comtesse eut cependant la présence d'esprit de laisser dire la Freinet et de ne pas se défendre. Elle l'écouta pérorer jusqu'au bout. Puis, prenant son parti, elle lui ferma la bouche par ses caresses. Il n'y résistait jamais. Et il en était tellement idolâtre qu'il en perdait littéralement l'esprit. Elle l'apaisait par un mot, jusqu'à ce que sa jalousie le reprit de nouveau et qu'il recommença ses cris insensés. Ce qui ne me plaît pas en tout ceci, c'est que la comtesse s'était fait déposer entre les mains de fortes sommes, jusqu'à 40 et 50 000 livres à la fois. Ce ne pouvait être pour elle, elle n'aimait pas l'or et n'en faisait aucun cas. C'était donc pour son frère. Cependant, d'un autre côté, l'archevêque, car il était déjà archevêque d'Embrun alors. L'archevêque, donc, lui prêtait de l'argent, ainsi que cela est prouvé par un billet dont je vous donnerai la copie. Toute cette partie de l'histoire est assez obscure. D'Argental, en arrivant essoufflé chez sa tante, ne fut pas admis près d'elle. Les domestiques, accoutumés à ces scènes, ne laissaient entrer personne lorsqu'elles avaient lieu. Rien n'était plus connu que cette intimité, on en parlait partout. Voltaire en riait à la journée. Il était singe à un degré remarquable et copiait les fureurs de la Freinet. Il en avait même fait en vers une parodie des fureurs d'Oreste, qui doit se retrouver dans ses papiers après sa mort. Il ne les a pas publiées par considération pour ses chers anges, les d'Argental. » Les choses en restèrent là, et tout se passa bien, pendant quelques jours. L'amoureux devint tout à coup d'une tristesse effrayante. Il se promenait les bras croisés, tout seul, dans les allées sombres des Tuileries. Il parlait haut, il gesticulait, il montrait le poing, il interpellait des êtres imaginaires, au point d'attirer l'attention des jardiniers, qui plusieurs fois le signalèrent au gardien en chef, et celui-ci le surveillait particulièrement. Lorsqu'il voyait la comtesse Alexandrine, il semait ses discours de phrases telles que celle-ci. « Vous le voulez, cela finira mal. » Ou bien « Vous l'aimez, malheureuse. » « Qui donc ? » demandait-elle. « Votre cœur vous répond pour moi, je n'ai pas besoin de le nommer. » Elle demeurait alors rue Saint-Honoré, près du palais royal. Un soir, il arriva chez elle assez tard. C'était au mois d'avril, il faisait une journée superbe et une chaleur précoce. Il lui proposa de venir avec lui le lendemain au pré Saint-Gervais, cueillir des violettes et voir pousser les lilas. « Non pas, répondit-elle, je n'aime point la campagne en cette saison. Il y fait froid, il n'y a ni fleurs ni fruits, on ne sait où s'asseoir, les mousses et les herbes ne sont pas poussées. Ne me parlez pas de vos idylles avant le mois de mai. »
« Vous ne le voulez pas ?»«
Non. »«
Vous avez autre chose à faire ?»«
Rien du tout. »
« Quelqu'un à recevoir ?»«
Personne. » »«
Je puis donc venir ?»«
Tant que vous voudrez. » »«
Je viendrai alors, n'en doutez pas. » »«
Venez. » »«
Seulement rappelez-vous vos paroles, et ne les oubliez point, comtesse. » »«
Je reviendrai. Je reviendrai vous chercher si le temps est beau. » »«
Pourquoi prendre cette peine ? Je n'irai pas. » »«
Écoutez jusqu'au bout. Je viendrai vous chercher. Et si vous me refusez encore... Eh bien, vous verrez ce qu'il en résultera. »
Quelques scènes encore et quelques menaces.
Vous verrez, vous dis-je, adieu.
Il sortit, elle ne le retint pas, il l'ennuyait. Dans la soirée, ses habitués arrivèrent. On eut beaucoup d'esprit, on était fort gai. Fontenelle, entre autres, fut éblouissant.
La Freinée entra sans parler à personne. Il salua à peine la comtesse et alla s'installer dans un coin. On ne fit pas attention à lui. Une discussion plaisante s'éleva entre d'Argental et le vieux auteur des mondes. Ils s'escarmouchèrent pendant une heure à qui mieux mieux. Madame de Tencin les écoutait avec plaisir. La Freinée traversa le cercle. J'y étais, je le vois encore. Il alla droit à sa maîtresse et lui dit, avec un accent impossible à rendre, « Donnez donc le prix, madame, la joute a lieu pour vous. » Chacun le regarda, on ne comprenait pas. On se rappela cela ensuite. Un instant après, quelqu'un prononça le nom du comte de Nocé. La Freinée interpella cette personne. « Il est toujours très malade, n'est-ce pas ? » demanda-t-il.
« Pardonnez-moi, monsieur, il se porte à merveille. »«
C'est impossible, il devrait être mort. » On éclata de rire. « Riez, riez, » poursuivit-il. « Rira bien qui rira le dernier. » On se retira après le souper modeste que nous donnait la comtesse. La Freinée m'offrit la main jusqu'à mon carrosse. « Adieu, madame, » me dit-il en me quittant. « Je ne vous reverrai pas de sitôt, je pense. »
« Vous partez ?»«
Oui, je pars. »«
Pour longtemps ?»«
Pour un grand voyage que nous ferons tous. »«
Ah, mon Dieu, encore vos idées !»«
Madame, j'ai reçu ce matin un coup mortel. »« Ce soir, j'en ai reçu un autre. »« Je suis deux fois frappée. »« Vous verrez ce qui arrivera. »« Ne venez pas demain en ce logis. »« C'est la dernière preuve d'amitié que je vous donne. »«
J'y viendrai, au contraire. »
« Ne vous en prenez donc qu'à vous-même. Adieu. » Et il me planta là sans même un salut. Je rentrai chez moi et je n'y pensais plus. Le lendemain, je me promis d'aller en rire et en causer avec la comtesse. Il me vint du monde, je ne fus pas libre. J'avais moi-même alors beaucoup d'occupations et de chagrins. Peut-être,
si j'avais pu exécuter mon projet. Peut-être le malheur ne serait-il pas arrivé. Madame de Tencin était seule. Il faisait très beau, comme la veille. Pondevel et sa mère étaient venus de bonne heure. Ils allaient à Meudon, chez madame de Coatquin, et madame de Tencin refusa de l'y suivre. Elle était inquiète, malgré elle, de cet insensé. Vers les 2 heures, il arriva. « Madame, lui dit-il, plus sombre et plus farouche qu'à l'ordinaire, vous plaît-il venir auprès Saint-Gervais aujourd'hui ?
Non, pas plus qu'hier.
Vous ne m'aimez pas alors ? J'en étais certain et je ne puis en douter. Dès lors, mon parti est pris.
Lequel ?
Vous allez le savoir, madame. Mais auparavant, sachez bien que mes précautions sont prises et que cela retombera sur vous. »
En disant ces mots, il sortit un objet de sa poche. Chapitre 55. Cet objet, c'était un pistolet, très bien chargé cette fois, et tout prêt à partir. Madame de Tencin ne s'en alarma pas. Elle ne crut pas la chose plus sérieuse qu'à l'ordinaire.
« Regardez-le bien, poursuivit-il. C'est ma délivrance. Je n'en ai qu'un. Je n'ai voulu en prendre qu'un. Parce que si j'en avais pris un autre, je n'aurais pas résisté au désir de vous emmener avec moi où je vais.
Je vous remercie. Je me trouve bien ici.
Vous ne vous y trouverez pas si bien tout à l'heure, car vous allez voir un triste spectacle. Adieu, ingrate, méchante, scélérate que vous êtes. Adieu. Vous me tuez. Vous m'avez rendu malheureux et je ne puis résister à ce malheur. Soyez maudite. Vous, vos amants, votre frère et tout ce que vous aimez. »
En achevant ces paroles, il se posa le pistolet sur le front, et avant que madame de Tencin ait pu soupçonner qu'il parlait sérieusement cette fois, il se fit sauter la cervelle. Elle fut couverte des débris. On ne peut rendre ce qui se passa alors. Cette femme, qui n'avait point de cœur, qui n'avait jamais aimé ce malheureux, cette femme qui, avant toute chose, tenait à écarter de sa vie les embarras et les obstacles. Cette femme, le premier moment passé, dut penser à ceux qui allaient surgir de cette épouvantable catastrophe. Elle fut d'abord surprise, effrayée, puis inquiète pour elle-même. Allant à la douleur et au regret, il n'y en eut pas. Peut-être même fut-elle ravie d'être débarrassée de ce jaloux. La manière seule lui déplaisait. Elle serait restée longtemps à la même place, dans le même état, regardant ce cadavre sans le voir, si ces gens, inquiets du coup de pistolet et connaissant les perpétuelles fureurs de la Fresnaye, n'étaient pas accourus à la hâte. Ils restèrent saisis de ce spectacle. Voyant leur maîtresse aussi immobile que son amant, ils la crurent morte comme lui, et se mirent à pousser des cris horribles. En quelques minutes, la chambre fut pleine de monde. Ce quartier populeux fut bien vite bouleversé, et l'on alla chercher les gens de justice, lesquels ne se firent pas prier pour revenir. Ce furent alors des étonnements, des pleurs, des interrogations. On voulait emporter ce corps défiguré. On voulait faire lever la comtesse, anéantie et hors d'état de bouger. On voulait la faire changer de vêtements et cacher ses débris affreux. On l'accablait de questions, on la plaignait, on l'accusait. Elle ne répondait point, ne se défendait point, ne donnait aucune explication. C'était un être inerte, sans mouvement et sans volonté. Ces soldats, ce peuple, ces commères qui l'entouraient, ce contact de canaille, cette odeur nauséabonde du sang, et de tant de gens rassemblés dans une petite pièce fermée, l'émotion, la crainte, toutes ces sensations réunies la prirent au cœur. Elle se trouva mal. J'entends par le cœur physique au moins, ce cœur qui se soulève lorsqu'il est affecté par une cause inaccoutumée. Quant à l'autre, il n'en était pas question. Je ne veux pas qu'on m'accuse de mentir. La femme de confiance de la comtesse, la voyant seule en face de toute cette aventure, eut heureusement la présence d'esprit d'envoyer chercher l'archevêque, ainsi que madame de Ferriol. Je me trouvai chez cette dernière,
nous y courûmes. Je vivrai 100 ans, et on assure que je les vivrai. Je n'oublierai pas ce spectacle. Madame de Tencin avait des ennemis parmi cette tourbe, à ce qu'il paraît. Ils ne voulurent pas quitter la maison, et ils criaient qu'on devait l'emmener au Châtelet tout de suite, car elle avait assassiné cet homme. Quelques autres la défendaient, et malgré l'invraisemblance, je dirais plus l'impossibilité du fait, je dois avouer qu'ils étaient les moins nombreux. La présence de l'archevêque les calma, ou plutôt les contraignit un peu. Ils se turent. Mais leurs regards parlaient, et ils menaçaient fort. Je ne suis point brave devant la foule. J'aurais voulu être loin. Cependant, je fis bonne contenance.
« Qu'est-ce ? Qu'y a-t-il ? » demanda Monsieur de Tencin d'un air superbe.
« Que signifient ces rumeurs ? Il est arrivé un malheur dans cette maison. Respectez-le et retirez-vous. »
Il restait.
« Je vais invoquer la force, entendez-vous ? Madame de Tencin a besoin de se remettre de cette terrible alarme. Ne troublez plus son repos. Un insensé, repoussé par sa vertu, s'est tué à ses genoux. C'est un grand sujet de deuil, mais non un sujet de scandale. »
À ce mot, la vertu de Madame de Tencin, malgré la gravité de la circonstance, un immense éclat de rire partit de tous les coins de la salle. Monsieur de Tencin en fut presque déconcerté. Cependant, il ne le releva point. La justice procéda à l'enlèvement du corps. La foule s'écoula à sa suite, mais elle s'arrêta devant la maison et se recruta des passants. Ce fut une sédition dans le quartier. Des propos menaçants circulèrent contre la comtesse et contre sa famille. On entendit même dire hautement
« C'est une assassine !»
Mais il ne lui arrivera rien. Elle est comtesse. Elle est l'ancienne maîtresse de ce vieux polisson de Dubois.
Si c'était un de nous, la grève n'aurait pas assez de potence, ni le bourreau assez de cordes.
Cela commençait déjà alors, et depuis. Quel progrès, messieurs les philosophes, ont fait faire en raisonnement à ce peuple, qui bientôt ne voudra plus être gouverné du tout. Il est très visible que, si Dieu ne s'en mêle pas activement, la monarchie est perdue. Nous restâmes fort longtemps chez la comtesse à tenir une espèce de conseil. « Il n'y a pas un moment à perdre, » disait Madame de Ferriole. « Mon frère, agissez de votre côté. Moi, j'agirai du mien. Je vais trouver le maréchal, l'envoyer chez Monsieur le Duc. Il est important qu'il soit prévenu par nous, avant de rien savoir d'un autre côté. » Les calomnies sont si vite répandues.
Et moi, ajouta d'Argental, je vais courir chez Madame de Prie. Il faut la voir pour nous en cette circonstance.
Moi, je ne sais ce que je veux, reprenait l'archevêque. Ma sœur, ma pauvre sœur, quel malheur épouvantable!
Ce n'est pas le cas de se lamenter, continuai-je. Permettez-moi de vous le dire. Si je puis être bonne à quelque chose, ne m'épargnez pas. »
On m'envoya chez le duc de Luynes, dont j'eus une curieuse réponse.
« Si vous ne fréquentiez pas ces gens-là, madame, vous n'auriez pas de pareils ennuis, et vous ne seriez pas obligée de solliciter pour une coquine semblable à cette religieuse défroquée. Depuis longtemps, madame de Luynes et moi, nous avons renoncé à vous faire des remontrances. Mais nous ne nous mêlerons en rien, ni de vous, ni de vos amis. Vous eussiez pu aller avec nous dans les compagnies où votre naissance vous appelle. Vous préférez ces bateleurs. Portez-en la peine, je ne vous plains pas. »
Telle fut l'indulgence et la charité de mon dévot oncle. Ma tante valait mieux. Elle ne m'eut pas reçue ainsi. Elle a continué de me voir et de me soutenir jusqu'à sa mort. Je lui en ai su grande reconnaissance. La première chose que firent les gens du roi, ce fut de chercher dans les papiers de Lafresnay. On y trouva d'abord une lettre adressée à l'archevêque, ainsi conçue, et que l'on peut voir aux pièces du procès. Elle est écrite comme par un savetier. Pour une femme de tant d'esprit, c'était un drôle d'amant. « Monsieur, je suis bien fâchée de mourir sans être en état de vous payer. J'ai fait les derniers efforts pour vous payer ce que je vous ai payé. Mon impuissance vient de votre sœur. Après avoir vécu avec moi dans un commerce d'amour pendant 3 ans, aux yeux de ses domestiques et des vôtres, elle s'est emparée de tous mes biens, abusant de la confiance que j'ai eue de les mettre sous son nom. Elle m'a mis dans la cruelle nécessité de périr. Si vous voulez éviter la punition de Dieu, renvoyez-la dans son couvent, d'où elle n'est assurément pas sortie canoniquement. » À côté de cette lettre, si bizarre et si incohérente, se trouvait un testament disant tout justement le contraire. En voici le début. Je ne raconterai pas ce qui regarde les affaires de la succession, à laquelle personne n'a jamais rien compris. Sur les avis et les menaces que m'a faites depuis longtemps Madame de Tencin de m'assassiner ou de me faire assassiner, et que j'ai même cru qu'elle exécuterait il y a quelques jours, sur ce qu'elle m'emprunta un de mes pistolets de poche, que j'ai eu le courage de lui donner, et comme, de ma connaissance particulière, elle a fait ce qu'elle a pu pour faire assassiner Monsieur de Nocey, et que son caractère la rend capable des plus grands crimes, j'ai cru que la précaution de faire mon testament ainsi qu'il suit était très convenable. » Plus loin, il disait « Cette misérable est si monstrueuse que le souvenir m'en fait frémir. Mépris, public, noirceur, cruauté, tout cela est trop faible pour exprimer la moitié de ce que j'ai essuyé. Mais sa grande haine est venue de ce que je l'ai surprise il y a 1 an, me faisant infidélité avec Fontenelle, son vieux amant, et de ce que j'ai découvert depuis qu'elle avait commerce avec son neveu d'Argental. Je finis en réclamant la justice de Monsieur le Duc, de Monsieur le Garde des Sceaux. Ils ne doivent pas souffrir que cette malheureuse continue davantage sa vie infâme. Elle est entrée au couvent de Montfleury, près Grenoble. Ils doivent l'obliger d'y retourner pour y faire pénitence de ses péchés. » On juge que d'après de pareilles preuves, il ne fut pas possible d'en rester là et que l'on dut poursuivre le procès. Avant que le maréchal et Monsieur de Tencin eussent pu agir, la comtesse fut arrêtée dans sa maison en notre présence. Je me retirai. Mais d'Argental voulut accompagner sa tante. On n'osa pas l'en empêcher. Elle n'était pas convaincue, elle n'était qu'accusée, et l'on ne pouvait la traiter avec la dernière rigueur. Le lieutenant criminel l'attendait au Châtelet avec le cadavre de Lafresnais. On la fit entrer droit dans la salle où il se trouvait. Elle ne s'en doutait pas, et lorsqu'elle l'aperçut, elle poussa un cri affreux et s'évanouit dans les bras de son neveu, qui traitait les juges de barbares. On la fit revenir à elle, on lui apporta un fauteuil et on lui témoigna quelques égards, mais sans ôter de devant ses yeux cet objet épouvantable. Elle resta 4 heures ainsi. Ils l'interrogèrent de toutes les façons, lui adressèrent les questions les plus minutieuses sur sa vie passée. Ils allèrent jusqu'à lui demander combien elle avait eu de galants, et s'il était vrai, comme le disait Lafresnais, qu'elle fut du dernier bien avec Fontenelle et son neveu ici présent. D'Argental se leva et fut au moment de tirer son épée. 2 agents subalternes le continrent. « Tenez-vous tranquille, jeune homme, » dit le lieutenant criminel, « et n'insultez pas la justice. Ce que nous faisons, nous avons le droit de le faire. » D'Argental se tut, mais ne se calma pas. Et cela se comprend. La séance n'était pas plaisante pour lui qui aimait sa tante si tendrement. Après l'interrogatoire fini, la pauvre femme était épuisée. On la sépara de son neveu et on la conduisit dans la prison, au Châtelet même, qui est l'endroit où l'on met les criminels. Elle en fut épouvantée et passa une nuit terrible. Il fallut appeler un médecin. À quoi ses ennemis ne manquèrent pas de répondre que les remords la tuaient. Chapitre 56. Cependant, ses amis agissaient. Ils ne laissaient pas un instant de repos à Monsieur le Duc et au Parlement, qui voulaient absolument s'occuper de la chose.
Monsieur l'archevêque, à force de prières et de larmes, car il allait pleurer partout, obtint qu'on la mettrait à la Bastille. C'était une amélioration. Et on ne la confondait plus avec ces grands criminels du commun destinés à la grève. Elle restait au secret, néanmoins. Il était interdit de la voir. On ne pouvait parvenir jusqu'à elle, et les lettres même ne lui arrivaient pas. On essaya de lui faire passer quelques douceurs. Elle ne les reçut point. On ne peut se figurer ce qu'elle souffrit de cette claustration. Elle faillit en devenir folle. Elle, accoutumée à la grande compagnie, à l'esprit, à une gâterie si douce de ceux qui l'entouraient, on comprend ce qu'elle en éprouva, sans compter l'inquiétude de l'avenir. Personne ne croyait cependant à un assassinat. On pensait bien du mal d'elle, mais ses ennemis même comprenaient qu'elle s'y serait prise d'une autre manière. On n'assassine pas avec la certitude d'en être puni et de ne pas recueillir le fruit de son crime, à moins d'une passion sauvage, et madame de Tencin n'était pas passionnée. Il n'en fallut pas moins une enquête, qui la fit rester plusieurs mois en prison. Enfin, l'affaire fut portée au grand conseil. La mémoire de La Fresnay fut condamnée, madame de Tencin déchargée de l'accusation, et le testament de La Fresnay traité de libelle, biffé solennellement. L'archevêque alla chercher sa sœur après le jugement, et pendant 8 jours sa maison ne désemplit pas. J'y courus des premières. J'avais grandement pris part à la détention de la comtesse, et puis je voulais voir sa figure. On la disait si vieille, si changée, que je souhaitais d'en avoir ma part. Elle était grande, elle avait le cou long, naturellement, elle était maigre et sèche. Mais en sortant de cette prison, c'était une haridelle. Elle avait à cette époque 45 ans à peu près, et ne les portait pas. Après son aventure, elle en montrait 60. Du plus loin qu'elle m'aperçut, « Eh bien, ma chère marquise, c'en est fait, j'ai dit mon dernier mot. »« Pourquoi cela? Vous avez encore assez d'esprit pour que la conversation vous soit permise. » « Ah, ma reine, je suis muette et je ne veux plus entendre parler de ces gens-là. Je veux vivre pour mon frère, pour mes amis, pour les lettres. Quant au reste, je ne sais plus s'il y a des hommes au monde. » « Je le crois, madame, et puis vous êtes jeune, vous, et vous me trouvez bien vieille pour songer encore à la galanterie. Vous pensez que j'en dois finir? Le temps marche pour vous aussi. » Vous arriverez vite au même point que moi, et vous saurez alors qu'on ne s'estime jamais trop vieille pour plaire. Je ne le crois pas, madame. Vous le verrez, j'ai été comme vous. Un voile se place sur les miroirs. Nous causâmes longtemps ainsi, et je la trouvai fort découragée. Elle tint parole et ne s'occupa plus que de ses romans. Elle fut mêlée à toutes les intrigues de ce temps jusqu'à sa mort, et resta bien en cour néanmoins. J'entends par la cour les ministres et les compagnies, car pour le roi et la reine, elle n'entra jamais chez eux. Il n'y avait pas d'apparence d'y parvenir, avec ses preuves et surtout avec sa réputation. C'était trop des deux ensemble. Elle eut une correspondance et une amitié qu'elle affichait beaucoup, avec le pape Benoît XIII, je crois. Il lui envoya son portrait, et elle montra ses lettres à tout venant. Cela ne la canonisa pas. Elle eut toujours pour ennemi Voltaire, qui ne lui laissait pas un lambeau de chair sur les os. Il l'appelait comme une orange. « Et encore, ajoutait-il, je prendrais une fourchette. Je ne voudrais pas la toucher du bout des doigts. » Je crois avoir déjà dit que chacun d'eux donnait de cette haine une raison différente. Elle prétendait qu'il lui avait fait la cour et qu'elle avait refusé ses hommages. Lui, au contraire, assurait qu'il n'avait point pensé à cela et que c'était justement l'opposé. On le punissait de cette indifférence et on l'en avait puni bien davantage. « C'était la comtesse, assurait-il, qui lui avait valu son temps de Bastille. » en le dénonçant à monsieur le régent et à Dubois comme l'auteur des « j'ai vu ». C'est d'autant plus mal de sa part qu'elle savait la vérité. Elle y a mis la méchanceté de nonne, non pas celle de Phèdre. Elle n'a pas la passion de cette malheureuse pour excuse. Elle est sèche de corps, sèche de cœur, sèche d'imagination. C'est un parchemin où l'on ne peut rien lire et que les rats ont mangé. Son frère, qui en effet avait été à Rome comme conclaviste du cardinal de Bussy, y retourna plus tard en qualité de chargé d'affaires. Je l'y dis. Il y fit, non pas les affaires de la France, mais d'abord celles du cardinal Dubois, son patron, et ensuite les siennes. Il se fit nommer successivement archevêque d'Embrun, archevêque de Lyon et cardinal. Il inventa un concile à Embrun contre l'évêque de Senezy et il y fit crier toutes les plumes des folliculaires. Il se fourra au plus épais des affaires. Il écrivit peu et ne voulait que deux choses, avoir beaucoup d'argent et être premier ministre. Il obtint le premier et fut au moment d'obtenir l'autre. Le cardinal Fleury eut l'air de le désigner pour son successeur, le tout, au contraire, afin d'en dégoûter le roi d'avance et de l'empêcher d'y arriver. Je n'ai jamais vu, et il ne fut jamais de singe, de vieille femme, d'écolier, de procureur plus malin et plus rusé que ce cardinal octogénaire. Il a prévu, je crois, jusqu'à la troisième génération de ses ennemis et leur a posé des barrières. J'ai toujours continué mes relations avec M. de Tencin, même après la mort de sa sœur, et nous le retrouverons dans le temps de Mademoiselle de Lespinasse. Je suis arrivée à un moment de ma vie assez pénible à raconter. Cependant, cette vie était celle de tout le monde, à peu près. Il aurait fallu plus de courage et de vertu que je n'en avais pour résister au torrent qui nous entraînait. Je veux en finir avec les Tencins et raconter une aventure qui nous fut commune, dont les conséquences se prolongèrent pour moi, tandis qu'elles n'eurent à leur égard que la durée d'une impression inattendue. Cependant, elle peindra bien leur caractère à tous les deux et servira de dernière retouche. Il était question d'un château merveilleux bâti par un traitant sur la fin de sa vie pour une maîtresse qu'il prétendait avoir et qui ne lui fut jamais autre chose qu'une enseigne. Il l'adora seulement et sur toutes les faces, je vous en réponds. Ces traitants n'en faisaient pas d'autres, et les environs de Paris étaient peuplés de leur folie. Ce château, situé dans un coin délicieux de la forêt de Senart, avait coûté des sommes immenses. On y avait amené des eaux artificielles, des jets d'eau, des cascades, des rivières, voire même un lac. Les arbres étaient superbes. Cela ressemblait à une de ces retraites dans les contes de fées où l'on cache des princesses poursuivies par de méchants enchanteurs. Monsieur de Tencin avait envie d'une terre. Celle-là était à vendre, parce que la divinité, brouillée avec son bienfaiteur, qui s'obstinait à vivre, avait dissipé ses bienfaits et restait à la merci des créanciers. Samuel Bernard refusa de l'aider et ne l'empêcha point de se défaire des délices. On y allait par curiosité, même lorsqu'on n'y avait que faire, et la mode arriva d'avoir vu cette merveille. Le beau de cette histoire, c'est que, pour achever la ressemblance avec les châteaux de fées, tout cela disparut comme par un coup de baguette. Le vieux banquier racheta sous main et fit mettre à terre ce qu'il avait élevé. On n'en vit plus de vestiges. Madame de Tencin et l'archevêque vinrent me proposer un jour d'aller ensemble visiter ce beau lieu, et j'y consentis volontiers. Nous partîmes dans le carrosse de l'archevêque, n'ayant avec nous qu'un certain abbé d'Élan, son chapelain, espèce de marionnette à ressort, qu'il traînait partout et qui s'endormait aussitôt qu'il était assis. Rien de plus commode, et je crois qu'il l'avait fait faire exprès. Nous causâmes assez gaiement pendant la route. Cette promenade des délices était assez fréquentée pour qu'un cabaretier y eût établi une tente et fit d'excellentes affaires en donnant à manger aux visiteurs. Le temps était superbe, il faisait fort chaud. Nous avions avec nous une quantité de fruits. Dubois en envoyait de superbes chaque matin à la comtesse. Elle et son frère ne se gênaient pas beaucoup devant moi. Cependant, ils étaient fort en peine de savoir ce qui s'était passé entre moi et monsieur le régent. Ils soupçonnaient quelque intelligence, et comme l'abbé ne comptait pour rien, puisqu'il dormait du sommeil du juste, il s'était donné le mot pour me confesser pendant le petit voyage. Je voyais quelquefois monsieur le duc d'Orléans, très en secret pour ce qui me concernait du moins, car pour lui je crois qu'il ne se gênait guère. J'avais refusé de paraître à aucun souper, de voir absolument personne, et je n'avais avoué à qui que ce fût, excepté à madame de Parabère, ce qui avait eu lieu. Madame de Parabère, au nombre de ses qualités, avait celle d'une discrétion absolue. J'étais sûre d'elle. Aussi, je n'accusais que monsieur le duc d'Orléans, lorsque je vis mon aventure transpirer. Je ne voulais l'avouer à aucun prix. Ces bruits en amenèrent la fin. J'en étais là lors de ma promenade aux délices. L'arnage, écarté par cette intimité avec son Altesse, et qui cependant n'était pas sorti de mon cœur, me revenait à la mémoire. J'éprouvais de fortes tentations de le rappeler. Je le fis. Il me répondit une lettre fort respectueuse, fort passionnée en même temps. Mais il refusa de me voir. Il était malade d'une sorte d'hypochondrie qui lui faisait voir tout en noir dans son existence. Je ne puis aller vous voir, madame, avec une disposition semblable. Vous en seriez la première victime. Je vous ennuierais, et je sais combien vous craignez l'ennui. Il ne faut pas m'accuser. Je ne suis pas coupable des idées effroyables et des jugements hors de sens qui me viennent à la tête. Je vous aime toujours avec la même passion. Il me semble seulement que vous ne méritez pas cet amour au point où je le croyais autrefois. Pardonnez-moi de vous parler ainsi. Je souffre. J'irai chez vous quand je serai guérie, si vous voulez encore me recevoir en ce temps-là. » Je n'étais pas femme à le violenter. Je me le tins pour dit, et ce fut un malheur. S'il était revenu, peut-être son influence et sa présence surtout m'auraient-elles empêché de me distraire. Je m'ennuyais. De là toutes mes sottises. Voltaire le répétait souvent. L'ennui est le père de toutes les sottises des femmes et de toutes les extravagances des hommes. Je commençai la lutte contre ce vieil ennemi qui m'a vaincu tant de fois, avec lequel je dois vivre et que je n'ai jamais pu vaincre, moi. Cette lutte éternelle durera autant que ma vie, je ne l'apaiserai pas. L'ennui est mon maître depuis que je me connais. Cela m'a conduite souvent à des pensées philosophiques pour ce que nous ignorons. Il est impossible qu'il n'y ait pas autre chose ailleurs et que l'âme dise ici-bas son dernier mot. Revenons maintenant à ma visite aux délices et à ce qui s'ensuivit. Monsieur Walpole, en lisant ceci, dira bien que je suis capricante. Je ne sais où il a pêché ce chien de mots. Chapitre 57. Nous cousions donc dans ce carrosse, assez cahoté par les mauvais chemins et interrompu par les exclamations de l'abbé, se réveillant en sursaut. C'était fort commode pour moi, qui voulais me taire, mais fort désagréable pour les autres, qui filaient leur scène et qui comptaient me faire parler, en m'enchevêtrant dans leurs propos. Madame de Tencin ne tarissait pas sur le compte de monsieur le régent, sur le bonheur d'avoir avec lui une relation, même passagère, d'amitié, sur ce qu'il était mal jugé, mal connu, et qu'il faudrait le voir avec des femmes qui pussent apprécier son caractère, qui le conduisissent au bien, au lieu de le laisser aller dans la fange où on le jetait. Je répondis qu'elle avait parfaitement raison et que j'étais tout à fait de son avis. « Le connaissez-vous, madame ? Vous l'avez souvent vu chez madame de Parabère, et il me semble que vous me l'avez dit. »« En effet, madame. » J'ai eu l'honneur de le rencontrer quelquefois. Oh, mon Dieu, le mauvais chemin! « Miséricorde, j'ai une bosse au front !» s'écria l'abbé en se retournant. Il en fut ainsi toute la route. Je m'en amusais beaucoup. Nous arrivâmes. C'était charmant. Je restais enthousiasmée de ce que je voyais, de ce luxe, de cette splendeur et de ces jardins d'Armide. Nous en eûmes pour toute la journée à regarder. « Monseigneur serait bien logé, disait l'abbé, en face de tous les amours et de toutes les Vénus, qu'il prenait pour des madones et pour des anges. » La comtesse Alexandrine en riait aux larmes, et moi encore davantage. Nous nous divertissions à lui faire pousser des exclamations d'étonnement en lui expliquant ce qu'était cette maison et pour quelle destination elle avait été construite.
« Cela est-il possible, mon Dieu? Y a-t-il des gens si pervertis ?»
Et le beau, c'est que, vivant depuis tant d'années dans une société aussi peu canonique, malgré ses canonicats, il était de bonne foi. Il croyait réellement tout le monde aussi chaste, aussi pur que lui. Il est vrai qu'il dormait la moitié du jour, au moins, et toute la nuit. Madame de Tencin ajouta, « Il est si bête que je réponds même de ses rêves. » Vers le soir, nous descendîmes jusqu'à la tente. On avait commandé une collation. Le gargotier, moyennant finance, s'était fait prêter par le concierge une jolie gloriette où il servait celle de ses pratiques qui lui offraient des garanties de réciprocité. Notre apparence, notre équipage, les bas violets et le rabat blanc de l'archevêque lui semblaient dignes de confiance. Il improvisa un fort bon repas. Les vins même étaient buvables. Enfin, l'on pouvait dîner passablement, même mieux que dans quelques maisons de Paris.